Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment encadrer des PME et autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus. Nous en parlons dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service avec pour invité Maître Kevin Eshimata, avocat et fondateur du cabinet Warham DRC, spécialisé dans l'accompagnement et l'encadrement des entrepreneurs et des gens en ligne. Maître Kevin Eshimata, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout à l'heure, mais aussi en ligne, Bonnie Tinda, directeur général de l'entreprise Tinda, spécialisée dans la livraison des marchandises. Monsieur Bonnie Tinda, bonjour.
Bonjour, Monsieur David.
C'est Marcel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes intéressé par ces sujets et vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 081 890 63 94 ou les 099 706 63 94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse Facebook Okapi Service ou à la page service @radiokapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 a affecté plusieurs secteurs de la vie nationale. Le ralentissement des activités à Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes de la RDC, a déstabilisé les activités de petites moyennes entreprises. Bon nombre de ces entreprises ont fait faillite. Les quelques micro-entreprises qui fonctionnent ont carrément réduit l'effectif de leur personnel pour faire face à la crise socio-économique due à la pandémie des coronavirus. Alors dans ce magazine avec nos deux invités, nous allons parler de comment encadrer des PME, donc des petites et moyennes entreprises et autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus. Je vous rappelle le numéro de contact si vous êtes intéressé, c'est les 081 890 63 94 ou les 099 706 63 94. On y va avec notre premier invité, Maître Kevin Eshimata, qui est avocat et fondateur du cabinet Warham DRC, spécialisé dans l'accompagnement et l'encadrement des entrepreneurs. Alors dites-nous, Maître Kevin Eshimata, avec cette crise socio-économique due au coronavirus, vous avez beaucoup de travail, me semble, pour accompagner et encadrer les entrepreneurs.
Voilà. Avec la crise liée à la pandémie et au coronavirus, je pense que le fossé économique congolais, qui déjà n'était pas bien encadré du point de vue des politiques publiques et même du cadre juridique, a encore subi un autre choc qui ne permet vraiment pas aux entrepreneurs de pouvoir s'en sortir. Alors, il y a plusieurs pistes à pouvoir exploiter, mais face aux contraintes, je pense que la réponse ne peut pas simplement prendre en compte les chocs que le pays vient de connaître ou carrément le monde vient de connaître, il faut également prendre en compte tous les aspects, toutes les contraintes que connaissent cette catégorie d'entrepreneurs en République démocratique du Congo. D'où il nous faut carrément une politique nationale d'encadrement de PME, une politique globale qui prend en compte tous les aspects fiscaux, les aspects liés aux ressources humaines, les aspects liés au marché, à l'accès au marché, les aspects liés au financement. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire en attendant l'évolution de l'émission.
Alors dites-nous, maître, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté, c'est-à-dire en d'autres termes, par rapport aux micro-entreprises, c'est-à-dire aux petites et moyennes entreprises, j'aimerais savoir les différentes catégories de petites et moyennes entreprises ou dans des différents secteurs. Quels sont les secteurs qui ont été le plus touchés par rapport à cette crise due à la pandémie de coronavirus, de Covid-19?
Bon, déjà, pour permettre à ce qu'on puisse avoir une idée fixe dans nos échanges, je voudrais à ce qu'on puisse se fixer sur les concepts d'abord petites et moyennes entreprises.
Allez-y, oui.
En République démocratique du Congo, il y a au moins quatre définitions qui découlent des différents textes de ce qu'on peut entendre par petite et moyenne entreprise. Il y a une définition qui prend en compte l'aspect nationalité. Cette définition découle du texte qui a créé l'OPEC. Donc, cette définition ne va pas tenir avec ce qu'on est en train d'échanger. Il y a une autre définition qui prend en compte le nombre de personnes que l'entreprise engage, c'est-à-dire une entreprise qui engage 200 personnes est considérée par le fisc, disons la DGI, comme étant une petite entreprise. Alors une autre catégorie tire sa source de la loi qui organise le secteur des investissements, le code des investissements. Alors cette loi fixe à 3 le nombre, au moins 3 personnes. Lorsque vous engagez ou vous utilisez au moins 3 personnes, vous êtes considéré comme étant une petite et moyenne entreprise. Alors, en ce qui concerne le bouleversement qu'a donné lieu la Covid-19, c'est que d'abord, les secteurs des services, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur des services qui, présentement là, sont en train de fermer. Il y a même certains qui ont déjà fermé. Il y a même une étude qui venait d'être lancée par, la FEC pour évaluer l'impact de cette période dure que l'économie congolaise venait de traverser. Et alors, les tendances jusque-là donnent que le secteur de services, le secteur d'Oreca, donc les hôtels, les restaurants et tous ceux qui sont dans cette chaîne-là, ont connu un choc très, très important. Alors, les secteurs de la production également, avec les fermetures de frontières, avec les difficultés des déplacements, avec les difficultés liées aux livraisons et consorts, ont également connu un choc important. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que c'est l'ensemble du secteur entrepreneurial, pratiquement les petites et moyennes entreprises, qui sont présentement, s'il n'y a pas, au moment où nous sommes en train d'échanger, s'il n'y a pas une réponse claire, une réponse globale de la part du pouvoir public, nous risquons de vivre ces chocs-là du point de vue des politiques publiques, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui contribuent, c'est également une catégorie des contribuables au budget de l'État. Donc nous ne pouvons pas espérer avoir un budget important sans pour autant soutenir cette catégorie de contribuables.
Maître, quand vous parlez d'une réponse globale, c'est-à-dire en termes clairs, il faut que l'État arrive à donner de moyens à ces micro-entreprises.
Voilà, donner le moyen. Les moyens ne sont pas que financiers, mais il faut au départ qu'il y ait une politique nationale cohérente d'encadrement de PME. C'est vrai que présentement, au niveau du ministère de petites et moyennes entreprises et artisanat, il y a une politique, un programme national qui existe. Simplement, ce programme qui est en train d'être piloté présentement a été adopté avant cette crise que nous sommes en train de vivre. Alors, cette politique que dont je suis en train de parler devra, à notre avis, prendre en compte les chocs que nous venons de vivre. Nous nous sommes rendus compte que, nous avons, par exemple, je peux directement citer par les chiffres, nous avons 80 millions de terres arables, alors que ce qui constitue carrément un contraste, alors que 75% de produits de consommation sont importés. Vous voyez, déjà avec ces contrastes, nous pouvons alors avoir une politique claire pour voir aujourd'hui, si cette crise perdurait, nous sommes obligés aujourd'hui de revoir notre secteur de l'agro-industrie pour faire en sorte que nos provinces qui sont en mesure, chacune de 25 ou 26 provinces, sont en mesure de pouvoir produire, ne fût-ce que si nous partons au Congo central, les Congo central peuvent produire de l'huile, nous partons à l'est, nous pouvons avoir du café. Alors, si on utilise la théorie des intérêts comparatifs, nous serons en mesure aujourd'hui d'avoir un produit par province, ce qui va nous permettre de créer un marché en interne et du coup de faciliter à la fois les entrepreneurs à pouvoir produire, à pouvoir déverser leurs produits dans les marchés qui sera créé et avoir certaines facilités. Alors, tout cela ne peut être possible que s'il y a une politique claire en matière d'abord de créer les marchés, de pouvoir inciter, de réduire la fiscalité et de permettre à ce qu'il y ait une politique aussi de renforcement des capacités, parce que qui dit petite et moyenne entreprise dit également expertise à pouvoir mettre en place pour pouvoir soutenir ces hommes d'affaires.
Ouais, Maître Kevin Chimataris en ligne, le temps pour nous de nous tourner vers Bonnie Tinda, qui est directeur général de l'entreprise Tinda, une entreprise spécialisée dans la livraison des marchandises. Vous avez dit que également les entreprises dans ces secteurs de livraison de marchandises sont également touchées par cette crise socio-économique due à la pandémie de la COVID-19. Monsieur Bonnie Tinda, rebonjour. Monsieur Bonnie Tinda, rebonjour, vous êtes en ligne, j'espère.
Oui, bonjour, je suis en ligne.
Ah voilà, vous êtes directeur général de l'entreprise Tinda, spécialisée dans la livraison des marchandises. Ah, dites-nous comment, au sein de votre entreprise, vous êtes en train de vivre ces moments difficiles sur le plan socio-économique avec la pandémie de la COVID-19.
Alors, je me représente, je suis Bonnie Maya, directeur général de la société Tinda. Tinda, qui est une société de livraison à domicile et en point relais à travers 5 villes majeures. Nous avons Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi et Brazzaville. Alors, nous sommes un service de livraison et nous sommes impactés de deux manières. La première manière est que nous livrons des articles de nos différents clients, nos clients qui sont des vendeurs. Pour certains qui n'ont pas pu s'approvisionner à temps, faute de fermeture des frontières et toutes ces difficultés que nous vivons pendant cette période de pandémie. Mais d'un autre côté, nous sommes également impactés, mais cette fois-ci positivement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens évitent les multiples contacts, donc ils évitent de se déplacer. Et pour bénéficier de certains produits à domicile, ils se font carrément livrer. Quand je dis ils se font carrément livrer, c'est la part de nourriture préparée, des produits vestimentaires, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques aussi, voire au-delà des produits de sport parce qu'ils sont à domicile et qu'ils aimeraient en profiter pour faire du sport. Donc pour vous dire que nous sommes plus impactés positivement que les autres entreprises, parce que nous permettons aux gens de respecter suffisamment les mesures barrières, de rester chez eux et de limiter le maximum de contacts possible.
Alors vous dites impacté positivement, c'est-à-dire que pour vous, compte tenu du secteur dans lequel vous exercez vos activités, par rapport à la pandémie de la COVID-19, ça vous permet quand même de continuer à faire vos affaires. Est-ce que vous pensez que cette manière de continuer à faire vos affaires quand vous le faisiez avant la pandémie de la COVID-19 et maintenant qu'il y a la pandémie, pour vous, ça vous rapporte gros, c'est bien cela.
Je ne dirais pas directement que ça nous rapporte gros, mais ça nous aide à l'éducation de notre cible. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, nous étions en train de matraquer de stratégies marketing pour faire comprendre aux gens que voilà, vous pouvez faire livrer à domicile, peu importe le produit que vous achetez, toutes les catégories de produits que vous pouvez acheter dans les commerces physiques, vous pouvez vous le faire livrer à domicile. Alors, avant, nous étions en train de travailler difficilement nos stratégies marketing pour pouvoir le faire, pour pouvoir bien communiquer. Mais pendant cette période de pandémie, les gens ont compris d'eux-mêmes que c'est important de se faire livrer, qu'on ne peut pas se déplacer pour tout et que certains produits peuvent nous rejoindre à domicile ou bien en point relais, au point de notre avenue. Et ça nous permet comme ça d'éviter les contacts avec les commerçants, avec les autres clients des commerçants qui sont en magasin, ainsi de suite. Donc voilà un peu notre impact.
Voilà, Monsieur Bouni Maya, restez en ligne. Nous rappelons à ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service, sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous parlons de comment encadrer des PME et autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94 ou bien au 099 716 63 94.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Nous avons en ligne Tamboué qui nous appelle de Béni dans les Nord Kivu. Tamboué, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix, Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup encore pour la parole que nous accordez, messieurs les journalistes. Je sais que la COVID-19 met à mal les petites et moyennes entreprises et vous allez comprendre que ici chez nous à Béni, la plupart de la population sont des peuples agricoles et l'insécurité aussi nous met à mal pour accéder dans nos différents champs. C'est pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement puisse faire de leur mieux pourvu qu'il puisse relever les défis là, les deux défis là, l'insécurité ainsi que les COVID, la COVID-19 pourvu que la population puisse mener leurs activités dans les bons. Parce que aussi, il n'y a aucun entrepreneur qui peut venir investir dans des régions où il y a de différentes difficultés. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'ils puissent en finir avec ça pour que la population puisse continuer avec leurs affaires. Parce que dans notre ville de Béni d'abord, on puisse se limiter seulement dans des gestes barrières parce que jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas s'il n'y a pas d'abord des cas de COVID-19. Parce que si on continue comme ça, j'espère que la population va mourir encore de faim. On ne peut pas mourir avec l'insécurité COVID-19 et il y aura aussi une troisième vague de la maladie qui viendra, ça sera la faim. Il faut que le gouvernement puisse faire de leur mieux pourvu que on puisse en finir avec ces situations, ça devient historique. Merci.
Merci à Tamboué d'avoir appelé de Béni dans le Nord Kivu. On revient à notre invité, à Maître Kevin Eshimata. Vous avez suivi Monsieur Bonny Maya, qui est directeur général de la société Tindai, spécialisée dans la livraison de marchandises à domicile, qui, d'après lui, en tout cas, tout en respectant le geste barrière pour ce qui est de la livraison de marchandises à domicile, en tout cas, ça a impacté, en tout cas, positivement au regard de la pandémie, de la COVID-19. Alors, c'est ce que j'avais posé comme question au début de cette émission. Pour les entreprises qui, par rapport à leurs activités, ils ont du mal à continuer à bien fonctionner par rapport à la pandémie de la COVID-19, compte tenu de ce qui est arrivé à la première vague, lors de la première vague, mais non, c'est la deuxième vague. Comment vous faites concrètement pour les accompagner ou pour les encadrer?
De nos activités, tout ce qu'on a connu en termes de choc, en fait, dans l'ensemble des analyses, l'option qui a été beaucoup plus mise en avant, et je pense que M. Boni l'a relevé, c'est l'option de pouvoir migrer vers le numérique. C'est-à-dire, on conseille généralement à nos clients ou carrément aux entrepreneurs que nous encadrons, de voir dans quelle mesure c'est créer également un espace sur le monde numérique et voir dans quelle mesure également migrer. C'est vrai que pour chaque crise correspond une opportunité pour les entrepreneurs. Et alors, nous avons par exemple le cas des entreprises qui sont dans le secteur du numérique, qui, contrairement à ceux qui sont encore dans le secteur autre que numérique, qui ont connu, qui ont vu leurs activités prendre une certaine ampleur, par exemple ceux qui sont dans la création des sites web, dans la création des logiciels de gestion, dans tous ceux qui sont dans les applications ou carrément tous ceux qui sont dans le numérique, ont vu leur chiffre d'affaires connaître quelques avancées. Mais pour les autres, c'est qu'on fait généralement, on leur conseille de prendre également cet élan, parce que derrière cette crise pour chaque homme d'affaires, il y a une opportunité qui se cache derrière. Donc il faut voir dans quelle mesure migrer vers, vous êtes par exemple une boutique qui vend des habits, vous allez voir dans quelle mesure vous pouvez vous faire une boutique en ligne pour commencer également à solliciter la clientèle en ligne et puis avoir à développer les services de livraison à domicile pour pouvoir pallier ou contourner cette crise. Parce que la crise est là, il faut faire avec.
Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous proposez à certaines entreprises de voir comment migrer avec d'autres secteurs qui peuvent leur permettre de continuer à fonctionner. Et quels ont été les constats faits sur le terrain? Parce que bien entendu, je suis en train de voir par rapport à la première vague, hein, avec tout ce que les entreprises ont connu comme problème. Est-ce que vous avez pu conseiller à certaines entreprises de voir comment migrer, soit dans les numériques, soit dans d'autres secteur où ces entreprises pouvaient continuer à fonctionner, que cela a marché?
Bon, de manière beaucoup plus pratique, nous avons par exemple les cas de l'un de nos clients qui était dans le service de sécurité rapproché.
Oui.
Avec la COVID-19, il fallait prendre des mesures pour... Avec la première vague, on a d'abord connu le confinement. Il fallait prendre des mesures pour voir dans quelle mesure il fallait faire face au confinement. D'abord, dans un premier temps, on a proposé à ce que les agents qu'on puisse migrer vers la sécurité à distance, c'est-à-dire proposer aux clients, au lieu d'avoir deux ou trois agents, d'avoir soit un seul agent, mais avec d'autres dispositifs de sécurité à distance pour pouvoir pallier à ces problèmes de confinement. Et après, voir dans quelle mesure on peut faire du total sécurité à distance. Voilà quelques exemples, par exemple, là. Et là, ça a quand même marché avec quelques personnalités qui ont compris et qui ont adopté la stratégie. Et jusque-là, c'est carrément le système avec les clients. Voilà, ce sont de petites solutions qui sont proposées aux entrepreneurs et qui par la suite peuvent être développées et puis par la suite proposées aux clients pour voir dans quelle mesure contourner et même faire face à cette crise de coronavirus.
Voilà, avant de me tourner vers Bonnie Maya, on va accorder la parole à un auditeur qui est en ligne, Gilbert Makama, qui nous appelle de Kananga. Gilbert Makama, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Gilbert, vous voulez bien fermer la radio à votre côté, hein, ou peut-être vous éloigner de cette radio, parce que là, il y a...
Okay.
Voilà, allez-y.
Ok, maintenant, vous me suivez?
Allez-y. On vous écoute, okay,
merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'octroi de la parole. La problématique du jour est tellement intéressante, mais vous devez savoir que le coronavirus a presque fragilisé tous les secteurs de la vie nationale, et notamment... la problématique dans laquelle nous débattons aujourd'hui. Maintenant, selon mon avis, je souhaiterais que l'État devrait revoir même certaines mesures, notamment dans le paiement des redevances publiques, notamment les taxes et impôts. Je pense que l'État devrait même diminuer en aidant les personnes touchées par la maladie coronavirus. Parce que nous ne voyons pas les petites et moyennes entreprises, même dans le secteur éducatif, tous les secteurs presque de la vie nationale sont vraiment touchés. Maintenant, pour aider tous les secteurs touchés, non seulement les petites et moyennes entreprises, l'État devrait les aider parfois même en diminuant même les taxes. Enfin, même si vous payez par exemple 10 000, c'est juste un exemple. Il peut réduire même à 5 000, tout ça. C'est ça ce que je peux voir aussi comme une bonne manière d'encadrer tous les secteurs touchés par cette maladie. Bon, c'était ma très petite contribution pour ces journalistes. Je vous remercie.
Merci à vous aussi, Gilbert Makama, d'avoir appelé du Kananga. Alors, Bonnie Maya, vous avez dit cela a impacté positivement, notamment pour ce qui est de la livraison de marchandises à domicile. Et vous avez parlé également de points relais. Donc, on imagine que à votre niveau, pour l'instant, vous pouvez certainement être débordé et que vous avez peut-être besoin d'augmenter de points relais. Parce que lorsque les gens n'ont pas le temps de se déplacer et qui commandent plus de marchandises pour que ça soit livré à domicile, il y a encore beaucoup plus de demandes au niveau de votre société.
Oui, effectivement, nous avons beaucoup plus de demandes maintenant et c'est une bonne chose pour nous et cela tombe bien parce que ça fait pratiquement 3 ans que Tinder existe. C'est depuis 2018 que nous avons lancé. Et pendant les deux dernières années, en fait, les deux premières années, nous avons beaucoup travaillé en termes d'amélioration de notre stratégie, en termes de la découverte d'abord du marché, parce que il faut savoir que le Congo a une certaine particularité qu'il faut comprendre avant de bien faire ses affaires. Donc nous avons compris la particularité de la RDC. Et cela nous a permis d'avoir une idée générale, une idée globale, qui, bien que nous ayons en ce moment une forte demande en termes de livraison, des nouvelles boutiques qui veulent livrer à domicile par Tinda, des nouvelles entreprises qui veulent faire livrer leur courrier par Tinda, voire les ambassades qui veulent faire livrer leur courrier par Tinda, nous avons déjà développé une stratégie qui nous permet de contenir cette demande, de rester professionnels, de fournir un service de qualité et aussi... Nous nous imposons aussi de respecter les gestes barrières parce qu'il faudrait pas que le livreur apporte le corona à domicile. Alors nous travaillons avec nos livreurs pour qu'ils respectent eux aussi les gestes barrières, pour qu'ils mettent leur masque à chaque fois qu'ils vont livrer, pour que ils aient du gel avec eux, pour que quand ils déposent le courrier, ils le déposent à bonne distance, ou quand ils déposent un colis, qu'ils déposent à bonne distance du client pour ne pas qu'il y ait transmission entre les deux. Et donc voilà. Aujourd'hui, nous avons pu gérer cette forte demande de en termes de livraison, et nous avons la capacité de livrer sur Kinshasa. Nous avons la capacité d'effectuer 300 livraisons le jour. Donc, ça nous permet quand même de bien évoluer en ce moment.
Alors, loin de nous l'idée de faire une publicité par rapport à votre entreprise, mais puisque ce que vous êtes en train de faire, c'est intéressant. Généralement, comment ça se passe lorsque il y a peut-être des gens qui sont en train de vous suivre à ce moment, qui n'avaient peut-être aucune idée de votre société, qu'il y a une société qui existe et qui livre des marchandises à domicile. Ça se passe concrètement comment sur le terrain?
Alors, nous avons notre site web qui est en ligne, comme Maître Kevin venait de le dire. Il faut que les entreprises puissent migrer au numérique s'ils veulent rester en tout cas en vie. Ces entreprises doivent migrer au numérique. Nous, nous avons migré bien longtemps. Nous avons notre site internet qui existe, www.tinda.cd, qui est en ligne. Toute personne qui veut effectuer sa livraison ou bien souscrire à notre service de livraison, il se connecte dessus, toute entreprise bien sûr, il se connecte dessus, ils prennent contact avec nous, ils auront un accès à notre gestionnaire d'expédition, donc notre gestionnaire de livraison, ils auront un compte et un mot de passe, et qu'ils pourront se connecter par la suite, ou bien en utilisant notre application mobile qui se trouve sur sur Play Store. Ils peuvent la télécharger, créer un compte, se connecter et créer leur demande de livraison. Donc c'est vraiment un simple formulaire que vous remplissez. J'ai ma marchandise à l'adresse A, je vais la faire livrer à l'adresse B. À la livraison, récupérez $20 pour moi auprès de Monsieur Tell. Et voici ses coordonnées téléphoniques, voici son adresse email. Et dès qu'il valide, nous, nos livreurs qui sont connectés à travers la ville, vont faire les courses, vont recevoir la notification, vont se pointer à l'adresse A pour récupérer le colis, vont se pointer à l'adresse B avec le colis pour livrer auprès du monsieur mentionné et récupérer l'argent que nous transférons au livreur via une solution de paiement que nous nous serons convenus entre nous. Donc, il faut noter ce dernier point, c'est que nous nous permettons à nos vendeurs en ligne, à ces vendeurs qui ont des boutiques, qui ont des sites e-commerce, qui ont des pages Facebook ou qui ont ne serait-ce que des comptes WhatsApp professionnels sur lesquels ils vendent leurs produits, nous leur permettons de livrer à domicile auprès de leurs clients tous les produits qu'ils vendent, mais aussi d'encaisser du cash à la livraison pour eux. Parce que parfois, ils veulent encaisser du cash à la livraison, ils ne savent pas comment faire. Nous pouvons encaisser du cash à la livraison pour eux et nous pouvons leur transmettre ce cash, leur transférer ce cash via une solution de paiement que nous serons fixés aux démarches de notre contrat.
Est-ce que tout se passe bien ou bien il y a des moments où il y a aussi de réclamations parce que là, c'est à domicile que la personne découvre la marchandise qu'elle a commandée. Ou bien des fois, il y a aussi des réclamations.
Alors, il y a beaucoup de réclamations. Nous appelons ça dans notre jargon habituel, nous appelons ça le désistement. Il y a beaucoup de désistements, mais pour l'instant, ce taux de désistement est en train de baisser. Pourquoi ? Parce que le vendeur, en cas de désistement, le vendeur est obligé de nous payer les frais de livraison. Et donc, les vendeurs, connaissant cela, essaient de travailler au maximum pour que le produit livré soit un produit de qualité, soit un produit pour lequel ils se sont entendus avec les clients sur un certain montant. Donc nous, à la livraison, si les clients refusent le produit, pour nous, le vendeur, il paye les frais de livraison. Donc c'est à lui de s'assurer que les produits sont de bonne qualité. Alors les problèmes que nous rencontrons habituellement sont les problèmes de compréhension aussi, parce que il s'est fait que nous nous pointons à l'adresse A et que le monsieur qui doit recevoir le colis est en réunion ou bien est en déplacement ou bien n'est pas disponible, des choses comme ça. Ou bien même l'adresse est mal référencée. Nous savons tous que certaines adresses dans certaines communes à travers la ville de Kinshasa sont très mal référencées. Donc ce sont des problèmes que nous rencontrons et des problèmes que nous essayons au mieux de pouvoir améliorer nos stratégies pour trouver des solutions qui nous permettent de livrer à tout le monde, de livrer sans désistement et de faire en sorte que le service soit de qualité.
Voilà, comment encadrer des PME autres start-up secouées par la crise socio-économique due au coronavirus? Nous en parlons dans ce magazine Okapi Service. Nous avons en ligne Shadrach qui nous appelle de Mbujimayi. Bonjour Shadrach.
Oui, bonjour.
On vous écoute Shadrach.
Ok, je voulais demander à l'initiateur du cabinet Warren pourquoi le cabinet est toujours limité à Kinshasa au lieu aussi d'organiser des séances d'information ici à Mbujimayi. Et je voulais aussi demander à M. Boni Maya, que je connais très bien, je le suis sur LinkedIn et aussi sur Facebook, pourquoi l'entreprise Tinda n'est pas installée ici à Mbujimayi.
Voilà, merci Shadrach d'avoir appelé de Mbujimayi. Maître Kevin Eshimata, on vous réclame du côté de Mbujimayi, j'imagine dans d'autres coins du pays. Qu'est-ce que vous dites à Shadrach?
Alors, Monsieur Shadrach, merci pour votre question. En fait, Waram, c'est également une structure qui évolue également dans le secteur numérique. Nous ne sommes pas que à Kinshasa. Donc, ce qui fait que depuis 2018, nous avons lancé une longue série de formations et des sensibilisations, des thématiques sensibles liées à l'entrepreneuriat. Et toutes ces actions ou toutes ces sensibilisations ou formations se passent en ligne. Et d'ailleurs, pour information, donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes sociales. Également, nous avons notre site internet www.waramdrc.com. Donc vous pouvez avoir toutes nos informations. Et en plus, nous avons une autre séance d'information qui aura lieu ces samedis et ces dimanches sur la gestion d'entreprise et entrepreneuriat face à la COVID-19. Donc, nous allons sensibiliser les entrepreneurs sur comment ils peuvent gérer les ressources humaines, comment ils peuvent gérer leurs finances, comment est-ce qu'ils peuvent prendre des mesures stratégiques pour migrer vers le numérique pendant cette période de COVID-19 et comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit de cette crise pour pouvoir se réorienter vers d'autres secteurs porteurs qui donne lieu cette pandémie. Donc, Waramdrc n'est pas qu'à Kinshasa. Pour preuve, nous avons mis en place, disons ça, on doit également le dire, nous avons mis en place une plateforme sur WhatsApp. Nous avons présentement 10 groupes WhatsApp où nous permettons aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et même ceux qui sont à l'extérieur du pays, de pouvoir échanger en termes d'informations, en termes d'opportunités, en termes de marché. Et ça marche déjà bien. Il y a toute une communauté de membres qui sont là. Et tous ceux qui veulent être, disons, prendre part ou être également dans cette communauté qu'on a créée, c'est gratuit. La communauté, prendre part ou être membre de la communauté, c'est gratuit. Vous pouvez carrément, si vous le permettez, je peux.
Allez-y, oui.
Ouais, alors, ils peuvent simplement écrire au numéro 081 18 69 258, 081 18 69 258, et puis nous allons vous envoyer les liens pour intégrer les groupes et profiter carrément de l'ensemble des informations qui s'échangent et des opportunités et même des formations et tout ce qu'il y a. Bon, tous ceux qui veulent aussi avoir nos informations peuvent aussi nous consulter en ligne via les plateformes, les réseaux sociaux Waramdrc. Waramdrc. Waram, c'est W-A-R-A-M-D-R-C.
Voilà pour les entrepreneurs qui sont secoués par cette crise socio-économique due à la pandémie de COVID-19. Vous avez là un numéro de téléphone, les 081 18 69 258. Vous avez également la plateforme Waramdrc. Hein. Donc si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas, parce que le but de ce sujet, c'est justement comment faire en sorte que les gens ne soient pas découragés, parce que là, comme vous savez, la pandémie de la COVID-19 n'est pas impact socio-économique qui fait que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à s'en sortir. Vous avez suivi parmi les pistes de solutions, on a parlé d'une réponse globale au niveau du gouvernement congolais, mais entre-temps, vous avez également suivi comment on est en train de voir comment demander à certaines entreprises de migrer vers certains secteurs comme le numérique. À l'exemple de Bonny Maya, qui est directeur général de la société à Tinda, spécialisé dans la livraison des marchandises à domicile. Il a dit cette société était déjà dans le numérique bien avant, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à faire face à cette crise socio-économique due à la pandémie de COVID-19. Alors, Bonny Maya, là également, il y a Ishadra qui a appelé des bougies Maï, qui a demandé pourquoi vous êtes seulement à Kinshasa.
Alors, comme je le dis, Tinda a été fondée en 2018. La première année, nous avons travaillé plutôt pour des livraisons locales sur Kinshasa seulement. La deuxième année, nous avons travaillé, la première année 2018, nous avons travaillé sur des livraisons sur Kinshasa seulement. La deuxième année, en 2019, nous avons également étendu Tinda sur quatre autres villes. Donc, Brazzaville, Matadi, Goma et Lubumbashi. Alors, nous avions prévu normalement en 2020 de pouvoir étaler encore sur 5 villes supplémentaires, entre autres Mbujimayi et Bukavu et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas pu faire cela. Pourquoi ? Parce que la pandémie a quand même bouleversé les usages et nous avons connu une forte demande sur les villes dans lesquelles nous étions déjà en train d'effectuer nos services de livraison. Alors, nous sommes plus focalisés d'abord sur les réponses à ces demandes, donc consacrer des réponses adéquates à cette augmentation des demandes de livraison. Et nous avons mis de côté notre projet d'étendre sur les villes supplémentaires. Nous venons de commencer notre année 2021. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure refaire les objectifs de 2020, étendre sur Mbujimayi, sur Bukavu, sur Kolwezi et sur Kasumbalesa. Mais je ne peux rien promettre ici parce que nous sommes encore en pleine pandémie et les choses peuvent changer rapidement.
Voilà, on va se rendre à Bandunduville pour retrouver Malunga qui nous appelle de cette ville. Malunga, bonjour.
Bonjour, Ferrou, MRV.
On vous écoute, Malunga. Quelle est votre question?
Ok, merci beaucoup. Bon, les questions, ce sont les propositions d'abord et les regrets. Après ce Covid, hein, après cette vague vraiment qui nous a vraiment secoué au monde entier, ici, nous étions un peu heureux, ici à Bandunduville. Est-ce pays, par l'OPEC, a sensibilisé vraiment cette couche ici de PME, en leur garantissant que non, après quelques jours ou quelques mois, dans cette année ici, au premier trimestre, il faut financer les PME. Et puis, les PME se sont vraiment préparés pour envoyer leurs dossiers. Ils ont déjà envoyé. Ici, à Bandunduville, à Kikwit et Idjof, sont tous là-bas. Mais ce que nous avons regretté, au lieu de ces PME soient très courageux d'envoyer ces dossiers, mais l'OPEC déclare que les PME doutent. Puisque c'est un mouvement qui s'habitue déjà. Vous voyez qu'il y a les gens qui s'enrichissent derrière les PME. Ils vont sensibiliser, non, fais ceci, il y a des conditions, ils vont remplir, mais l'histoire restera vraiment dans l'inconnu. C'est ça la question que je vais demander. Ici chez nous, dans nos villes à Kikwit, on a déjà envoyé les dossiers, les PME ont déjà envoyé les dossiers à la FEPI, là, à travers l'OPEC. Bon, on entend ce financement pour encourager après Covid.
Mais dites-nous Malunga, vous-même, oui. Vous êtes aussi un entrepreneur, vous travaillez dans un secteur précis ou bien c'est par rapport aux autres?
Oui, moi je suis un acteur. Je déclare souvent à la radio, Capim, à la radio, que moi j'ai mon entreprise Matraco. Malunga travaille au Congo.
Vous faites quoi? Votre entreprise, c'est dans quel secteur?
Oui.
Votre entreprise, c'est dans quel secteur? Vous faites quoi dans votre entreprise?
Je suis dans les divers, hein, dans le secteur commercial.
Oui.
Hein, je vends les divers et d'autres choses. Alors, moi aussi, j'avais envoyé mon dossier. Hein, bon, parmi ces dossiers qui étaient partis de la ville de Bandundu, ceux de Kikwit aussi ont envoyé. Alors, jusqu'à présent, nous entendons. Nous arrivons à l'OPEC, l'OPEC dit que non, en tout cas, ça ne nous regarde pas encore. C'est au niveau de la FPI. Est-ce qu'il y a quelque chose à là, si nous demandons, c'est comme si il y a encore aussi quoi? Alors, c'est ce que nous demandons. Hein? Chaque fois, mettre la population dans cet espoir irréalisable, est-ce que vraiment le gouvernement congolais est sérieux? Hein? Bon, cette fois-ci, nous entendons qu'après ce Covid, en réalité, la population souffre, surtout cette couche de PME. Hein? Nous sommes vraiment par terre. Alors nous entendons la réalisation et surtout Fatih est là, il peut suivre ça pour que cet argent ne soit pas dévié. Nous sommes à l'écoute que c'est la Banque mondiale qui finance et toutes les organisations internationales. Alors, il faut que ça nous arrive et puis nous retrouvions aussi. C'est ce que moi j'allais à commenter là-bas.
Voilà, merci Malunga d'avoir appelé de Bandunduville. Nous allons voir si ça sera possible dans nos prochaines émissions d'avoir quelqu'un, une personne ressource de FPI ou bien de l'OPEC, hein, pour essayer de répondre à vos préoccupations. Mais en attendant, peut-être que Maître Kevin Eshimata peut réagir par rapport à ce que vous avez dit. Maître Kevin Eshimata, vous avez suivi Malunga qui a appelé de Bandunduville et qui est aussi un entrepreneur qui a introduit un dossier au niveau des institutions chargées de porter secours aux entreprises lorsqu'elles sont en difficulté. Comment vous réagissez par rapport à cela?
Voilà, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que les cabinets Waram DRC rappellent toujours aux entrepreneurs qui l'encadrent, c'est que les entrepreneurs ne peuvent pas, ou les entreprises, ou les petites et moyennes entreprises, ne peuvent pas vivre des dons. nous devons éviter, l'État congolais doit éviter cette allure de faire croire aux propriétaires de petites et moyennes entreprises que, qu'ils peuvent vivre ou qu'ils peuvent faire vivre leur entreprise par les dons provenant de l'État. Le rôle de l'État en plein 21e siècle, c'est celui de pouvoir mettre en place les cadres, de pouvoir mettre en place ou de pouvoir organiser la fiscalité qui permette le jeu normal des entreprises, de pouvoir créer les marchés, faciliter aux Congolais d'accéder au marché public, à la commande publique, de pouvoir mettre des structures de formation pour développer les expertises nécessaires pour faire fonctionner les entreprises. Alors l'État, s'il commence à faire croire aux entrepreneurs qu'il peut encore prendre en charge leur fonctionnement, c'est alors là la mesure que nous devons éviter. C'est pourquoi, dans le cas des propositions que nous sommes en train de faire, c'est qu'on fait d'une part les propositions concernant l'État et les propositions concernant les entrepreneurs ou les entreprises ou les propriétaires des entreprises. Pour l'État, l'État doit prendre en place, doit mettre en place une politique nationale cohérente, c'est-à-dire une politique qui prend en compte les aspects fiscaux, les aspects de l'expertise, les aspects des formations et les aspects liés au marché public. Donc tous ces éléments-là, c'est ça le rôle de l'État. L'État n'est pas cet individu qui doit pourvoir à tous les besoins. L'État ne doit mettre en place que les cadres normaux. Voilà notre réaction par rapport à cet état de choses. Donc, même là, lorsqu'on a vu le programme d'appui au développement des micro et petites et moyennes entreprises, en fait, l'axe qu'on a mis en avant, c'est l'axe de financement des plans d'affaires. Alors que ce programme, c'est un programme intéressant qui mérite d'être connu par les entrepreneurs et qui mérite d'être appliqué dans son ensemble suivant tous ces axes. Jusque-là, l'axe qui est présenté, c'est l'axe de financement et l'idée qui est en train d'être jetée dans la place publique, c'est que l'État aura le rôle de financer les entrepreneurs. Alors que dans une situation normale, l'État doit mettre en place les cadres, inciter les banques oui. à pouvoir donner des crédits à taux préférentiel aux entrepreneurs, inciter les autres financements provenant des autres structures, et l'État ne peut être là que comme étant régulateur. Notre modeste contribution par rapport à l'intervention de M. Malunga de Bandung.
Merci Maître Kevin Shimata. Ce sera également votre conclusion par rapport à ces sujets sur comment encadrer le PME, autre start-up secouée par la crise socio-économique due au coronavirus. Nous rappelons que vous êtes avocat et fondateur du cabinet Waram DRC, spécialisé dans l'accompagnement et l'encadrement des entrepreneurs. Merci d'avoir été des nôtres. Voilà, on va également dire merci à Bonnie Maya, qui est directeur général de la société Tinda, spécialisée dans la livraison de marchandises à domicile. Vous avez peut-être quelque chose à dire pour la conclusion, pour conclure, monsieur Bonnie Maya?
Oui, je peux juste rajouter sur ce que Maître vient de dire. L'État peut se porter aussi comme garant en termes auprès des banques, auprès des institutions financières pour les PME, parce que certaines PME ont besoin de ressources financières supplémentaires pour faire face à cette période de pandémie Covid-19, mais par contre leur donner de l'argent, leur remettre de l'argent en main par l'État, ce n'est pas une je trouve, comme Maître vient de le dire, je trouve que c'est pas une très bonne solution, mais l'État peut plutôt se placer en termes de garant auprès des institutions financières et permettre aux entreprises, aux PME, qui répondre à un certain nombre de critères d'obtention de crédits bancaires, de pouvoir obtenir ces crédits bancaires et subvenir à certaines charges qui n'arrivent plus à contenir en ces moments-ci. Donc voilà ma petite contribution. Je vous incite, comme Maître vient de le dire, je vous incite à migrer au numérique. Ça permettra à certaines entreprises de tenir le coup pendant cette période de pandémie. Bien qu'évidemment, ce n'est pas toutes les entreprises qui seront obligées de migrer au numérique. parce que cela dépend également du secteur d'activité, cela dépend également de votre cible ou de votre clientèle.
Merci Boni Maya d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la société Tinda, spécialisée dans la livraison des marchandises à domicile. On espère vous retrouver prochainement.
Merci.